et bienvenue dans Certains les Machos, l'émission qui nage avec les crocos et les films à la sortie. Salut Thierry.
Salut Thomas.
Cette semaine, on va voir
Crawl,
Promarais,
The Operative,
Give Me Liberty,
White Rose.
Encore un très beau programme, Thierry.
Ah bah, comme toujours, nos choix sont divins, excellents, parfaits, comme toujours. Comme notre enthousiasme avant et notre décrépitude après.
Ce qui est cool, c'est qu'on n'aura pas à se taper le Roi Lion cette fois-ci.
Ah, c'est trop bien. Ouais, là, le film qu'on a choisi en tête de gondole cette semaine donne envie.
Allez, l'affiche qui nous hype le plus cette semaine, on commence par ce film, c'est Crawl d'Alexandre Aja. Pour aller voir ce film, je suis avec, bon, Thierry toujours, hein, ça n'a pas changé, et Hera. Salut Hera.
Salut Thomas.
Crawl d'Alexandre Aja. Donc si je me souviens bien du scénar, c'est l'histoire de Alei qui va sauver son père coincé dans une maison prise par un cyclone ou un ouragan. C'est le bordel, il y a de l'eau partout. En arrivant à la maison, elle s'aperçoit qu'elle est infestée de crocos ou d'alligators. On va pas s'amuser à faire la distinction ici, c'est bon. Voilà. Bien, donc Crawl avec Callas Codelario, que moi je connais pas particulièrement. Je sais qu'elle était dans Labyrinthe, mais comme j'ai pas vu les Labyrinthes, j'ai soigneusement esquivé ces films.
Elle était surtout dans Skins. Elle joue le personnage d'Elizabeth Stonen dans la saison 1 où elle parle pas, parce que c'était trop cher de la payer. Et dans la saison 2, et 3, et 4 où elle parle plus. C'est cool de la revoir, quand même.
Je n'ai jamais été ado, donc je n'ai jamais regardé Skins. Voilà.
Aïe, 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 aïe. Je suis toujours ado, donc je regarde toujours Skins.
On se complète, c'est bien, c'est merveilleux. Thierry !
Non, je suis super content d'y aller parce que c'est le nouveau Alexandre Aja et j'adore Alexandre Aja. Même si Horns, le dernier film sorti au cinéma, était vraiment pas terrible, je l'ai revu et non. Mais le dernier film qu'il a fait, c'était La 9e vie de Louis Drax, qui était plutôt chouette, mais qui est uniquement sorti donc voilà, en vidéo, pas de distribution ciné, donc je suis super content déjà qu'il revienne au cinéma. Et Alexandre Aja qui fait un huis clos avec des crocos, il a fait Piranha 3D et il a prouvé qu'il savait largement faire de la mise en scène là-dessus s'il a envie de nous éclater. Donc je pense que le film n'aura pas plus de prétention que ça, qu'il a juste envie de nous divertir et de nous éclater, comme il avait fait avec Piranha, et qu'il va sûrement très bien le faire parce que c'est un putain de monstre pour les huis clos Aja, et il sait faire les films de monstres. Donc j'ai confiance. J'y vais assez excité.
Que dire de plus ? On se jette à l'eau.
On se jette à l'eau.
The state of Florida has issued a category 5 hurricane warning. All residents must evacuate immediately. Grab your families, your loved ones, and get out.
Dad!
We won't be able to come for you.
Dad!
What happened? 1h27 de film à nager pour échapper aux alligators en furie. Et dans l'hélicoptère de secours, il y a Yassa qui est arrivé pile sur le générique du début du film. Salut Yassa.
Salut Thomas.
Ça va, il n'y avait pas eu trop d'alligators dans le métro, c'est bon ?
Non, pas dans le métro, non. Mais en arrivant, peut-être oui, j'en ai croisé un ou deux.
Méfiez-vous des alligators de Paris.
Franchement, j'étais complètement investie en fait. J'étais à fond dans le film. Ça m'a rappelé les téléfilms des TF1 l'après-midi sur lesquels tu zappes et tu peux plus dézapper en fait. J'étais à fond dedans. Il y avait quelques longueurs, un petit peu de sentimentalisme que je trouvais pas forcément bienvenue, mais sinon le reste, je veux dire, même l'ouragan était flippant, quoi. Je veux dire, les arbres qui s'arrachent, l'eau qui monte très rapidement, le vent, tu sens, franchement, à un moment donné, moi j'ai senti le vent, quoi. Je voulais pas être à leur place. Et les alligators, c'est des alligators, alors ils sont filmés d'une manière... J'arrivais pas à dire si c'était des alligators de taille normale ou des alligators mutants, parce que c'est des tailles normales. Ouais, non, mais enfin, j'ai pas la notion de grandeur d'un alligator adulte, donc je pouvais pas trop savoir. J'avais l'impression qu'ils étaient énormes en fait.
Mais c'est des alligators américains, ils sont plus gros qu'à Paris.
C'est non, mais un alligator, ça fait cette taille-là. Hein. Non, mais concrètement. Parce que ça, c'est marrant que tu parles justement de ça. Parce que le dernier film que j'ai vu, moi, dans ce genre, un film où il faut fuir un monstre dans la flotte et compagnie, c'était The Meg, enfin, En eau trouble, là, avec Jason Statham et un mégalodon. C'était nul à chier, mais surtout on se sentait obligé de montrer parce qu'on s'était là, ouais, les requins ça marche plus parce que les dents de la mer, alors il faut mettre un gros requin. Là non, là tu peux mettre des alligators de taille normale, bon ils en mettent plusieurs, mais ça fait tout aussi flipper. Il suffit juste de mettre quelqu'un qui fait de la mise en scène, voilà. Bref, c'est ça pour dire que ouais, non, moi je me suis éclaté. Comme disait Yassa, il y a des longueurs, hein. il y a vraiment des tentatives à un moment de raccorder des points de scénario. C'est essentiel de le faire, mais c'était très superflu et très mal branlé. C'est dommage.
Il faut quand même expliquer pourquoi est-ce que l'héroïne nage plus vite que des crocos quand même.
Oui, non, mais ça, à la limite, non, mais ça, c'est très bien expliqué. De toute façon, le cadre est posé, mais en deux secondes. Tu la vois à la piscine, tu sais qu'elle nage vite. Ah, bah, il y a de la flotte partout, on sait qu'elle va nager plus vite. Après, de toute façon, un alligator, c'est pas, le seul avantage qu'ils ont contre eux, c'est que c'est pas très agile et c'est pas très rapide. Après, voilà, et ça s'est pas levé la tête. À part ça, si ça te chope, ça te chope, quoi. Je veux dire, voilà. Mais d'ailleurs, ils les chopent souvent. Je trouve qu'ils arrivent quand même à se sortir pour ceux qui se font mordre régulièrement par des alligators.
Ils sont indestructibles. Hein. Combien de fois ils se sont fait bouffer? Ils se sont fait péter le bras, bouffer la jambe, le bras, le pied, tout. Et pourtant, ils nagent nickel jusqu'à la fin. Tout va bien.
Alors que les personnages secondaires, enfin, les petits caméos qu'on a des personnages là, ils se font bouffer en 10 secondes, quoi. Ouais, chrono.
One shot, quoi.
One shot, mais
c'est vraiment un film de genre, hein, là, pour le coup. C'est vraiment un film popcorn de l'été. On se prend pas trop la tête sur sur ces points de réalisme là.
Non mais c'est là le petit souci, c'est que enfin tous les trucs qu'il y a en trop, c'est que du coup c'est de la série B alors que ça aurait été de la série Z. Et t'aurais retiré tout ça pour faire un truc encore plus popcorn, encore plus cheap, encore plus rentre dedans. Je trouve que ça aurait été limite mieux. Mais j'ai passé un super moment quand même. Hein.
C'est ça, c'est que au début je me suis dit c'est un peu sérieux, il y a du suspense, c'est sympa, et puis plus ça va et plus les personnages sans nom, quoi, les personnages secondaires se font bouffer à tour de bras, ça devenait moi j'étais mort de rire, enfin on était mort de rire dans la salle parce que ça perce au sérieux, quoi, et du coup j'avais plus trop de suspense parce que je sais que les mecs, bon, ils ont le choix entre rester sur le toit, attendre les secours ou prendre le bateau et traverser la rue qui est infestée d'alligators. Bon, ben on va traverser la rue, c'est pas grave. Ouais, non, mais bon.
Évidemment que ça va encore mal se passer, parce que c'est ça le principe dans ce genre de film, c'est qu'est-ce qui peut se passer de pire tout le temps, qu'est-ce qui peut arriver de pire, de pire, de pire. Donc au début,
mais la scène suivante.
Ouais, c'est ça, la scène suivante. Au début, ils sont dans le sous-sol, ensuite ils commencent à y avoir beaucoup de dans le sous-sol, ils font un espèce de remake de Titanic, ensuite c'est un espèce de remake de Buried. Ça va un peu dans tous les sens, et c'est super marrant. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment le film popcorn à voir entre potes. On se marre, sauf y a ça, qui était en PLS complète. Mais nous, on a beaucoup ri, et c'est vrai qu'on passe un bon moment, parce que de toute façon on n'a pas d'engagement, parce qu'on n'a pas installé le contexte avec des personnages où tu t'attaches à eux au début. Du coup tu t'en fous de leur résultat, de leur vie, ce qui va se passer, donc ça passe et c'est fun.
De l'action, de l'action, de l'action, on se fout du développement du personnage du moment qu'on a de l'action. C'est la leçon du jour. On est ravis de ce film.
Ouais.
Très belle mise en scène. Oui, je voulais aller sur ce point-là aussi. Pas besoin de faire des monstres de l'espace. Ici, le bestiaire, c'est des rats dans la cave, quelques araignées et des gros alligators. Ça suffit, hein. Ça suffit. Pourquoi risquer d'être en sécurité? Excellente question. C'est l'heure de prendre des risques avec un nouveau film. Est-ce que vous restez avec nous pour les prochains films? On va voir The Operative après. Vous restez là ce soir pour le film suivant? Bon, très bien. Eh bien, les filles, on se retrouve juste après une petite interlude. Ou un interlude. Oh mon Dieu, je ne sais...
Moeteino wa tamashi dake da. Moete kesu no ga ore no ryugi de.
Suki de moyashite iru wake ja nai. Ono wa tokura no ichibu da.
Kore ga Parnassus Sasuke. Jinrui no saigo no kimo da.
Ichi shou ga kanzen nenshou. Moeru hikeshi tamashi no garotti mo sama da.
Thomas, visiblement, je ne suis pas le seul à être allé voir un film tout seul cette semaine. Tu es allé voir Promare, film d'animation japonaise de Hiroyuki Himeishi. Est-ce que tu veux nous en parler un peu?
Ouais, il y avait une petite avant-première pour Promare qui sort le 31 juillet 2019. Voilà, petit repère temporaire si vous écoutez ce podcast plus tard. Voilà. Donc j'avais vu l'avant-première, un film d'animation qui est passé à Annecy d'ailleurs. Bon, on n'était pas à Annecy cette année, donc tant pis. Et donc j'ai voulu en profiter. Et quand j'ai vu ce film, je ne me suis pas trop renseigné à l'avance. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. on dirait Gurren Lagann avec un skin de pompier. Alors Gurren Lagann, c'est Toppa Tengen Gurren Lagann, c'est une série d'animation de la Gainax à l'époque. Et la Gainax, alors la Gainax c'est une grosse boîte qui avait fait beaucoup d'animés, notamment de robots, bah, comme Gurren Lagann ou comme Evangelion aussi, par hasard. Eh bien, il se trouve que, bon, c'est pas la Gainax, c'est de Trigger, ce sont des anciens de la Gainax qui ont fondé ça. Et Hiroyuki Imaishi a effectivement réalisé Gurren Lagann à l'époque, donc tout s'explique. Et c'est là que j'arrive à mon point, finalement, je suis sorti de la salle, eh bien, assez mitigé. Autant, je suis très content parce que j'aime beaucoup ce style, c'est un style qui est très actif, qui est très dynamique, qui en fout plein la vue, quoi. Le truc, c'est que c'est frénétique. Alors frénétique, c'est bien, le problème c'est que c'est frénétique dans les scènes calmes, mais c'est aussi surfrénétique dans les scènes d'action, au point que on n'y voit plus grand chose. C'est un film de robot.
Bah alors, histoire constitue, tiens, on va faire un petit point sur l'histoire. Donc là, je vais lire ce que je vois. Hein. Une énorme tempête de feu a dévasté la moitié des villes du monde, affaiblissant les hommes et donnant naissance à des mutants capables de manier le feu, les Burnish. 30 ans plus tard, un groupe de mutants terroristes appelés les Mad Burnish menace de détruire de nouveau la Terre. Le seul rempart de l'humanité, la Burning Rescue, une équipe de pompiers d'un nouveau genre, Gal Otimos et son équipe vont tout faire pour arrêter les Mad Burnish.
Alors c'est à peu près ça. Alors ce que dit pas le résumé, c'est que les mecs font ça avec des robots, parce que voilà, c'est toujours plus cool avec des robots. Et c'est un style, ouais, c'est à la fois un film de robots et il y a aussi les aspects du shonen aussi, avec le héros. Le héros est une caricature de shonen. Et en fait, c'est ça aussi le problème, c'est que autant on se fait plaisir sur les robots, on se fait plaisir sur les scènes d'action, même si on ne comprend pas toujours, autant je trouve que, mis à part l'univers, c'est sympa. En fait, ce sont les Burnish, ce sont au départ, on ne sait pas trop ce que c'est. Ce sont des gens qui, en fait, quand ils sont en situation de stress, se mettent à tout faire brûler, ils ont le pouvoir de tout cramer, quoi. Et en gros, ben, maintenant, il y a des super pompiers qui tirent des projectiles de glace. Le problème, c'est qu'après, une fois qu'on est sorti de ça, on est sur un character design qui est ultra classique. Je disais, j'avais l'impression de voir Gurren Lagann. Le héros, c'est un copier-coller d'un des personnages de Gurren Lagann. On dirait Kamina, pour ceux qui connaissent. C'est en gros, c'est un des héros principaux. Il a la même gueule, il a le même caractère. La seule différence, c'est qu'il n'a pas de lunettes de soleil. Voilà, c'est le seul détail. Pareil, on a une équipe, la Team Rescue, c'est des character design qu'on a vu 20 000 fois. L'antagoniste du héros, c'est pour la millième fois, c'est un personnage androgyne avec des cheveux blonds platine. On manque énormément d'originalité. C'est le point qui pêche. Pourtant, il y a eu un boulot sur le scénario aussi. Donc le scénario, ben, c'est toujours Kozaki Nakashima qui s'est occupé du scénario, qui a bossé aussi sur Gurren Lagann à l'époque, qui a bossé aussi sur Kill la Kill, tout comme le réalisateur d'ailleurs. Alors, on est toujours dans les clichés. Le scénario est ultra prévisible. On sait ce qui va se passer, mais c'est pas trop grave parce que ils se débrouillent pour quand même nous nourrir. Et même si on passe sur tout ce qui est les chapitres obligés, la rivalité entre les héros, le mec qui se fait capturer, qui se libère, il y a un robot, puis un plus gros robot, puis un plus gros robot, puis un plus gros robot, puis un méchant, puis un plus gros méchant, et puis il y a un mec plus fort et encore plus fort, comme dans ce genre de truc. Eh ben, ça reste plaisant. Il y a une bonne ambiance. Voilà.
Et sur le côté shonen, shonen où justement malgré tout tu as l'impression que ça monte toujours en escalade au niveau de la puissance des persos et au niveau de l'incompréhension des scènes, est-ce que ça se rapproche par exemple d'un truc comme Broly ou quoi que ce soit qui était sorti un peu avant et qui est finalement construit sur le même genre de schéma?
C'est le même genre de schéma, sauf que le scénario fait un peu plus d'efforts. Donc on peut au moins reconnaître ça, même si... Moi je suis trop vieux pour me laisser. Enfin, je les ai vus ces trucs là. Gurren Lagann, je l'ai vu. Les Evangelion, je les ai vus. Je commence à avoir vu quelques animés quoi. Je commence à avoir les ficelles et les trucs. Au moins le scénario nous ménage et essaye de nous faire un peu surprise. Bon, il n'y arrive pas toujours, mais au moins il y a un effort pour nous réveiller. Il y a du fanservice, même si c'est un film original, contrairement à Dragon Ball ou Broly et Dragon Ball, tout ça, bon, ben, on les connaissait, on est nostalgique. Là, au moins, il y a un peu de nouveauté. Et bon, alors, on est sur du fanservice toujours. Hein. On a aussi la copine du héros qui ressemble énormément d'ailleurs à d'autres personnages antérieurs, sauf que là, elle est un peu moins féminisée. Mais quand même, donc, elle a quand même une petite veste pour pas trop qu'on voit sans haut, mais dans son méca il faut quand même qu'elle se tienne de manière cambrée parce que c'est quand même un animé, faut pas déconner. Ça reste dommage. Dans l'ensemble, ouais, je trouve que c'est un moment sympa. Si on est fan du genre, eh bien, on va trouver tout ce qui nous plaît dans le genre. Il n'y a pas de surprise, mais il n'y a pas de déception non plus. On va cocher toutes les cases, et donc on va les avoir, et on va avoir ce plaisir. Après, c'est vrai qu'on ne profite pas, peut-être pas assez des robots quand ils apparaissent, ou de certains personnages, de certaines scènes, parce que c'est frénétique et ça va très très vite. On a parfois du mal à suivre. Mais on fait des efforts sur les angles de caméra, hein. Bon, parfois improbables aussi. Voilà.
Ouais, donc ça reste un film qui reste aussi réservé à son public de niche,
ouais, c'est très, de
très
niche.
Connaisseur. Quoi.
C'est très très de niche. Quoi. Ah, si vous, en dehors des fans d'animé, ça reste très de niche. Petite reco, ben, j'en ai parlé, foncez voir la série Toppa Tengen Gurren Lagann. Voilà. Et sinon, il y a les Evangelion aussi. Mais c'est pas aussi déjanté. Quoi. Non, c'est fait. Gurren Lagann, voilà. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, mais sans la 3D, voilà.
Promare, à réserver aux fans. On passe à la suite ?
On passe à la suite car Diane Kruger nous attend.
When they assigned her to me, it was my idea to send her to Iran, get her into the nuclear division. Her cover, an English and French teacher.
I'm probably not going to sleep tonight.
You're going to do great. You're the best person for this assignment.
Did she know who she was tracking?
She had no idea.
I'm Rachel.
What do you do?
Haven't you learned not to ask questions like that? The people here all have many secrets.
Are you going to tell me what's going on?
She disappeared.
Disappeared?
She could be anywhere now.
The Operative. The Operative.
The Operative.
Bon, bref. The Operative, parce que moi je le dis à la phrase 16. De Yuval Adler avec Diane Kruger et Martin Freeman. Film d'espionnage. Diane Kruger, agent infiltré du Mossad en Iran, a disparu et Martin Freeman doit la retrouver. Et pour cela, il va se remémorer la mission de la belle espionne. Et donc en gros, on ne verra plus beaucoup Martin Freeman et beaucoup Diane Kruger. Un film j'allais dire sobre, spartiate même. Ça commence, boum, The Operative, boum, et on commence le film. Plan séquence sur Martin Freeman qui fait son jogging. Longtemps. Très longtemps.
Dans un champ d'herbe.
Et autant vous dire que les deux heures de film, on les sent passer.
Vous avez déjà demandé quand vous étiez sorti de la top, ou quand vous lisez un roman de John le Carré en général, pourquoi on ne fait pas beaucoup de films sur l'espionnage de manière très réaliste? Pourquoi est-ce qu'on se tape des 007, des missions impossibles? C'est parce que c'est chiant. Voilà. L'espionnage en version réaliste, c'est chiant.
Alors, disons que non. Alors, c'est un film où il ne se passe pas rien. Ce n'est pas vrai.
Non,
parce qu'il y a un scénario qui est quand même très... Enfin, je veux dire, c'est abrupt, quoi. C'est vraiment brut de décoffrage. On te balance les trucs. C'est quand même... Alors, l'espionnage, c'est dur, quoi. En plus, ça se veut ultra réaliste. Donc, on a... En plus, ce sont des agents particuliers du Mossad, puisque ce sont des... ils sont juifs, mais pas israéliens. Ils sont anglais, quoi. Et donc, ils sont... comme ils ne sont pas du coin, ben, le Mossad, les considèrent comme des agents de seconde zone.
Ils ne sont pas vraiment de la famille, quoi.
Voilà. Donc déjà, il y a une première couche de rejet. En plus, c'est une femme. En plus, je spoil, je m'en fous. Non, mais ouais, alors si vous ne voulez pas vous faire spoiler, allez au prochain timecode, regardez dans la description. Voilà, je vous le dis. En plus, c'est une femme. Elle tombe enceinte. Alors, c'est pas bien, tu comprends, si elle tombe enceinte pendant la mission. Elle doit se faire exfiltrer à un moment... Et du coup, elle se fait planquer dans le camion, mais il y a un mec qui vient avec elle dans la planque et qui en profite pour la toucher pendant que les gardes iraniens sont là. Et donc, si elle crie, elle peut pas. Donc, les gardes la prennent. Voilà. Elle est traumatisée. Et puis, elle fait une fausse couche parce qu'elle a un accident qu'elle a fait y avoir. Et puis, elle tombe amoureuse du mec avec qui elle se met. Et puis, on ne sait pas trop. Alors... Là, en fait, quand on dit tous ces trucs-là sur le papier, normalement, c'est des trucs super durs, super forts. Et en fait, la mise en scène est tellement froide et tellement neutre qu'on s'en branle. On s'en fout, mais c'est incroyable à quel point on s'en fout.
C'est exactement ça. Le ressenti, c'est exactement ça. Moi, je suis sorti de là en me disant, je me suis pas ennuyé. mais j'en avais absolument rien à foutre de savoir où les persos allaient, leurs enjeux, leur finalité. Je m'ennuyais pas, je pouvais regarder le truc, c'était pas un souci. Mais sans forcément une énorme hâte de partir, mais vraiment en mode, je m'en fiche en fait, donc vas-y, dis-moi ce que t'as à dire, quoi. C'est dommage, parce que oui, en effet, il se passe des choses, et en effet, le contexte est super intéressant.
Donc ouais, c'est les années 2000 en Iran, alors qu'on soupçonne l'Iran d'avoir l'arme nucléaire ou de la développer, donc il devrait y avoir des tensions, des trucs, et ben en fait on comprend pas vraiment ce qui se passe, mais parce que rien n'est vraiment, on sait pas vraiment qui est la cible, et à la limite on s'en fout.
En fait le contexte est mal posé, c'est ouais. Ça le truc. Ouais. On sait pas à quelle époque exactement ça se passe, on commence à le découvrir au fur et à mesure quand on voit la gueule des ordinateurs, etc. Mais sinon il y a rien, parce que ça se passe en Iran, et on n'a pas vraiment beaucoup de retours de l'Iran, on sait pas comment ça se passe réellement dans la vie là-bas, donc on voit des voitures, mais des années 70, donc on se dit ouais, ça pourrait très bien être les années 70, après on voit un pick-up récent, donc on sait pas trop... On ne peut pas vraiment situer l'époque déjà, donc c'est un peu dur de savoir. Et puis même l'agence en elle-même, quoi, c'est flou, c'est totalement flou. On ne sait pas qui est l'agence. Enfin, ils nous le disent à un moment donné, mais enfin, rien n'est posé. J'arrivais au milieu du film, des fois, je me reposais la question. Ouais, mais elle bosse pour qui? C'est des gens dans un appartement avec des ordinateurs en train de parler de l'agent, et on a des flashbacks, mais sinon...
Oui, ça pourrait être n'importe quel autre agent. Ouais.
N'importe, ça pourrait être le MI6 pour ce qu'on en sait, quoi.
Ouais, non, c'est ça. Oui, sauf qu'ils parlent hébreu entre eux. Enfin, oui. Non, il y a deux mecs qui parlent hébreu entre eux. Sinon, la plupart du temps, elles parlent anglais tout le temps parce qu'elles ne parlent pas la langue. D'ailleurs, un point qui plaît à Thierry, là, je pense qu'il va nous dire ça, c'est que c'est un film où on voit Diane Kruger parler au moins trois langues.
Non, mais non, justement.
Je t'avais fait la réflexion, je me souviens, je ne sais plus dans quel cadre. Je t'avais dit, moi, j'ai envie de voir un film d'espionnage avec Olga Kurylenko et Diane Kruger, parce que vu que ces nanas sont hyper polyglottes, enfin, surtout Kurylenko pour le coup. On peut faire un putain de film d'espionnage où elles vont parler plein de langues, où ça va se mêler et ça peut être hyper intéressant. Non, elles parlent pas trois langues là. Enfin, elles parle anglais tout du long. Elles sortent trois phrases en allemand, une phrase en français à un moment qui n'ont aucun rapport avec sa mission. Alors que putain, j'aurais adoré voir un contexte où ils exploitent la linguistique, quoi.
Bon, on a l'habitude des espions surentraînés et tout ça. Et là, c'est un film qui se veut réaliste sur l'espionnage, mais même j'ai l'impression que c'était un agent pas entraîné du tout. J'ai l'impression qu'elle faisait elle faisait partie de l'agence, elle faisait de la paperasse au début, et puis on l'a envoyé ils ont décidé de l'envoyer sur le terrain.
Je crois qu'ils expliquaient ça au début,
au tout début,
que
ouais,
en fait oui. Il l'a balancé comme ça même si elle était pas prête, mais que bon voilà,
pas entraîné pour un sou, quoi.
C'est super linéaire, et même si c'est un film qui se veut réaliste, malgré tout, il contient tous les clichés de l'espionnage, ce qui est quand même très fort.
C'est balèze.
C'est super balèze. C'est supposé être réaliste, mais donc on est sur une meuf, donc effectivement pas super entraînée, donc évidemment elle bosse pour le Mossad. Évidemment, bon, bah, contexte enjeu politico-social, évidemment elle tombe amoureuse d'un mec. Évidemment, du coup, faut qu'elle gère sa vie en même temps, sa mission, et puis, mais y a rien qui est clair.
Et puis elle est hors de contrôle.
Et puis elle sait pas exactement ce qu'elle veut faire. C'est fatigant.
Il y a un problème de confiance avec son superviseur.
Oui, voilà, et puis il y a évidemment des problèmes de confiance avec elle est pas loyale, on sait pas vers qui, on sait pas exactement, c'est un peu agent double. Comme d'hab, c'est toujours un peu agent double. Il y a toujours des histoires de vie qui se forment, il se passe toujours le même genre de truc. Donc, en plus d'être extrêmement cliché, c'est super linéaire. Il se passe, donc rien de spécial, on l'a dit. Le rythme de la mise en scène, c'est extrêmement plat, mais il n'y a même pas la musique ou quoi que ce soit pour rattraper quelque chose. C'est une bande-annonce, c'est un prologue, mais qui dure 2 heures. C'est juste... c'est long. C'est affreusement long, et on s'ennuie au possible. C'était c'est assez impressionnant, quoi. Je tiens quand même à donner un point là-dessus qui est super joli et super intéressant. C'est comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, l'Iran, on n'en entend pas beaucoup parler, on voit très peu d'images de là-bas, et on connaît très peu...
C'est le pays des méchants.
Ok.
Dans les films, c'est le pays des méchants.
C'est marrant d'ailleurs, parce que c'est vraiment... Enfin bref.
Et la Libye.
Et la Libye, oui.
Les années 80, c'était la Libye.
Mais c'est assez intéressant de voir comment c'est en Iran, comment ça se passe, de voir un peu de décor. À vérifier, je sais pas si ça a été tourné là-bas. Je suis pas sûr.
Alors, si c'est aussi restrictif que ce qu'ils nous annoncent, non. Ça a dû être tourné au Maroc, comme la plupart des films.
Mais je pense qu'on a pensé à la même chose. Je t'ai fait une remarque d'ailleurs et t'as rigolé, donc je suis sûr que t'y pensais aussi. T'as le passage où ils sont dans un café avec le gars qu'elle est censée séduire et donc elle tombe amoureuse, machin et compagnie, enfin bref, cliché. Et il est en train de lui expliquer les règles en lui disant t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Et après, il lui dit non, mais en fait, on le fait en secret, on le fait en secret. Et là, je voyais trop Jafar Panahi débarquer dans le bar et faire non, mais les règles, on les emmerde en fait. Allez, venez, je vous emmène dans une boîte.
Moi, j'aurais bien imaginé le voir un mec avec une caméra sous le bras discrètement dans le bar.
Non, mais par contre, ça c'est vrai, par exemple, ce qui se fait en, dessous, ça, ouais. En underground, c'est vrai.
En Iran, L'Iran, c'est le pays du secret, quoi. En fait, ils vivent tous très librement, mais personne ne le sait.
Idem en Arabie Saoudite, hein. Pareil. Il y a des boîtes de nuit souterraines, enfin, c'est.
Si cet été tu fais ta géopolitique avec Anna et ce film, waouh! Bon, The Operative n'était pas très active au final, hein. Nous a laissé un peu. De loin, endormi, le prochain film nous réveillera-t-il ? Bon, pour se remettre en jambe, on va se faire une petite séance de rattrapage avec Thierry. Les filles, on n'est pas sûr de vous voir demain, donc ben, je vous dis bonne soirée. Salut Yassa.
Salut Thomas.
Et salut Hera.
Salut Thomas.
Bet you're gonna miss me.
Keep your fist still, please.
You're gonna be the next Dolly Parton!
Your lordship, Miss Harlan has put her childish ways behind her. Her children are living with her once again.
Do you miss me?
She is a promising young country singer.
I'm trying to get to Nashville.
Well, you better mind your tad doesn't go off when you're going through security.
She now works full time as a daily woman.
Hey! I'm trying to be a country singer.
Nobody wants to see a convicted criminal up there.
Johnny Cash is a convicted criminal, you ball bag.
Petit rattrapage avec un film de la semaine dernière, Wild Rose de Tom Harper, avec Jesse Buckley, Daisy Littlefield, Julie Walters. Thierry, quel est ton ressenti à la sortie de ce magnifique film de musique, de prison, de rédemption, de Nashville, de country et de jeunes femmes qui font de la chanson?
Le film a pas mal été comparé dans sa promo à A Star Is Born, parce qu'il touche à peu près les mêmes thématiques d'une nana qui fait de la country et qui a envie de percer. Alors, c'est pas mal l'antithèse de A Star Is Born, dans le bon sens comme dans le mauvais. Dans le bon sens, parce que dans A Star Is Born, je ne voyais, à part les petits soucis de « Ah, je suis un peu accro à la drogue, ah, mon mec est un peu un taré et ça va pas très bien », tu vois jamais la difficulté. Tout se passe au fur et à mesure et ça va. Là, tu vois une personne qui vient de Glasgow, de son rêve, c'est d'être une chanteuse country, d'aller à Nashville, mais elle est écossaise et en Écosse, on n'écoute pas beaucoup de country. Elle pense même qu'elle est la seule à en faire. Et du coup, on la voit galérer. C'est une nana qui a fait des enfants avant qu'elle ait 18 ans, qui se retrouve à devoir choisir entre sa vie de famille, qu'elle ne veut clairement pas, et devenir la chanteuse qu'elle rêve d'être depuis 14 ans, c'est ce qu'ils disent. Et clairement, la pauvre, elle galère hein, parce qu'elle n'y arrive toujours pas. À la fois c'est plat, à la fois ça l'est pas. Il y a les morceaux de country. Bon, moi je suis pas un fan de country donc ça me parle pas. J'imagine que quand t'aimes bien, c'est bien gaulé. Un peu comme A Star Is Born du coup. Voilà, moi ça m'a pas mal laissé de marbre sans forcément être un moment excessivement désagréable. Après c'était cool parce que ça se passe en Écosse. On voit quand même pas mal de situations sociales. T'as l'impression d'être dans un film de Ken Loach avec de la country en plus parce que ça te montre un peu la rigueur sociale sur les Écossais qui sont vraiment.
Dans les classes populaires.
Dans les classes populaires, voilà, exactement.
Tu le recommandes alors ou pas ?
Si on aime bien ce genre de film et qu'on a envie d'être touché par une histoire sympa, ouais, carrément.
Les chansons sont sympas ?
Moi, j'ai trouvé ça chiant. Il n'y en a pas tant que ça, mais c'est de la country, c'est de la country pur jus, quoi, pour le coup. Hein. Il y a le côté, on joue sur le côté la vérité, sort de la country. C'est un accord, c'est trois accords et la vérité. Ça, on joue beaucoup sur le côté tu dois parler de ta vie. Donc oui, c'est touchant parce qu'on voit le personnage qui galère et qui va en parler en chanson. Mais j'ai trouvé ça plat. Après,
Voilà. Wild Rose reste au niveau des pâquerettes, alors. Allez, on passe au film suivant.
My kids, they don't know how I am. They knew their father, but not long enough.
How do you do this?
I mean, I just do. I do what I do just like everybody else does.
You're one of the nicest kid I ever met. You're honest and you're dependable.
So just gotta try to live your life the best you know how. And you'll be okay.
Allez, dernière séance de la semaine. Donc du coup, cette fois-ci, je suis avec Hera.
Bonjour Thierry.
Et deux invités absolument exceptionnels qui viennent d'un site tout aussi exceptionnel, Critique Film. Je suis avec Inès. Bonjour Inès.
Alors bonjour Thierry. Alors je dirais pas exceptionnel, mais je suis flattée en tout cas que tu utilises cet adjectif pour nous définir. C'est flatteur.
Exceptionnel, merveilleux, fantasque. Et Pascal.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on est allé voir Give Me Liberty, un film américain fait par un réalisateur d'origine russe, Kirill Mikhanovsky. C'est une comédie dramatique qui a été présentée à Sundance et à Cannes. L'histoire, quelle est-elle ? C'est l'histoire de Victor, qui est donc un chauffeur pour handicapés. Voilà, donc au plus sérieux, qui doit faire sa routine de la journée, donc aller chercher les personnes dont il s'occupe pour les emmener à leurs différentes activités, mais qui se retrouve à devoir aider son grand-père qui a une amie qui est morte et qui aimerait qu'il l'emmène aux funérailles. Donc du coup, il va se retrouver avec une flopée, on va dire, de gens de tous horizons. Donc il y a tous les amis de cette personne russe qui viennent pour aller aux funérailles, et ça va rentrer en contradiction avec la tournée qu'il est censé faire pour son travail. Donc choc des cultures, tout va pas bien se passer, et évidemment après film politique puisqu'on va partir dans d'autres choses.
Vous voyez ce genre de journée où tout se passe mal ? Où tu commences le matin, tu te lèves du mauvais pied, tu trébuches, ça va pas déjà dès le matin. C'était un peu la journée de Victor ce jour-là. Donc c'est un film qui est très bavard, sauf pour le personnage principal qui au final parle très très peu. Le mec trimballe tout le monde, toute une populace de gens à travers la ville pour ses différentes tournées, et c'est une personne qui a un calme olympien et qui va être un peu l'œil du cyclone au milieu de gens complètement plus tarés les uns que les autres en fait. Donc comme disait Thierry, effectivement ça commence à mal partir, et là on a une espèce de tragédie comique qui lance en fait des éléments comiques qui vont récupérer plus tard un peu dans le film. C'est un jeu de tennis là-dessus, et j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait beaucoup rire.
Non, alors oui, en effet, on a le côté justement, donc journée qui se passe pas très bien comme prévu. Moi ça m'a beaucoup fait penser, bon, dans un autre domaine, à After Hours. Il y a un côté qui moi m'a beaucoup plu aussi au début, ça m'a fait beaucoup rire, le côté justement choc des cultures. Toi tu es très proche de la culture russe, donc forcément ça a dû te plaire aussi. Les blagues sont tout le temps rythmées de la même façon, avec l'accordéon qui revient dans le chant à chaque fois pour montrer qu'on va faire une chanson. Et du coup moi j'ai trouvé qu'en fait le problème c'est que le film avait beaucoup de choses à raconter, et à la fois très peu. C'est-à-dire qu'il choisit ses sujets, il va rentrer dedans. Donc d'ailleurs même Victor au final n'est pas tant le personnage principal. Chaque personnage principal va être, selon les actes du film, où chacun va tirer la couverture, devenir le personnage principal, la rendre à Victor pour qu'il fasse la transition. Il va vouloir raconter un sujet, et il va le pousser, et le raconter en boucle, jusqu'au moment où on se dit juste, ok j'en ai marre, passe à autre chose. Et c'est ce qui pour moi est le défaut qui pêche dans ce film.
Le film m'a beaucoup épuisé moi aussi, mais pour le coup je trouve que quand même Vic est quand même le personnage principal. On voit tout à travers son regard, soit le candide, soit plutôt le clown blanc qui se tape tout, et qui est là vraiment au cœur de l'histoire, même s'il a l'air d'être très peu présent, parce que comme tu le disais Hera, il parle très peu. On voit tout à travers son regard, c'est sa tension qu'on observe, c'est sa nervosité, c'est... Il est au bord du burn-out tout le temps. T'as l'impression qu'il va craquer, qu'il va se jeter par la fenêtre de son camion, se jeter sous les roues. Il est très nerveux, et tu as en face ce type, Dima, qui est le neveu de Lila, cette dame qui est morte. On ne sait pas si, en effet, et c'est même le personnage de Vic l'évoque un moment, on ne sait pas s'il est vraiment son neveu, s'il veut juste... Il a entendu éventuellement parler de la mort de cette dame et qu'il veut récupérer des sous. Et donc il y a ce type là qui est une force de nature, qui est en contraste absolu avec Victor. C'est pas du tout le même type de personnalité. T'en as un qui est taiseux, très, très généreux, et tu as ce type qui aussi, il y a un regard assez positif, bienveillant sur le personnage de Dima, mais lui c'est une pile électrique tout le temps, mais extérieur, alors que Vic c'est plutôt intériorisé, son côté pile électrique. Donc ça fait deux personnages tendus mais de manière différente, pris dans une histoire qui est mais vraiment très épuisante. Il y a toujours des rebondissements, il se passe toujours des choses, tu as toujours ces petits vieux qu'il faut descendre, faire monter d'un van. Mais arrêtez-vous, posez-vous un moment, laissez-nous respirer.
En effet, comme l'a bien précisé Pascal, il y a une forme de foisonnement qui continue. On n'a aucun temps mort. Il faut savoir que c'est un film extrêmement sonore. Et c'est un film, pour le coup, dont l'énergie est matérialisée par la mise en scène. Pour le coup, au niveau du surdécoupage, on est quand même à un niveau assez exceptionnel et qui fait qu'il y a des effets, pour le coup, sur le spectateur. Moi, je ne sais pas concernant mes camarades, mais à la fin, j'avais clairement mal à la tête. À force de voir ce foisonnement d'images, ce foisonnement de sons, d'effets sonores. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est toute cette esthétique de la cacophonie. On a en fait un réalisateur qui filme le chaos. Et pour rebondir par rapport à ce regard bienveillant, et en effet, on a quand même une galerie de personnages. Ils sont quand même extrêmement nombreux. Mais qui se révèle très attachant. Et ce personnage de Dima, pour le coup, dont on ne sait rien par rapport à ses intentions, qui est toujours filmé avec cette bienveillance. Ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est la manière dont il montre qu'à partir de ce chaos, de ce désordre, de cette cacophonie, en fait, il y a des liens qui se créent à partir de là. En fait, à partir du désordre, à partir du chaos, c'est là où les liens, en fait, se forment. Et c'est aussi lié, en effet, aux personnalités de tous les protagonistes, excepté Victor, et je pense que c'est en effet le Vic, c'est finalement le contrepoint qui permet de mesurer toutes ces individualités. Il n'y en a pas un en effet qui a une personnalité moins forte que l'autre, et pourtant ils viennent de milieux différents. On l'a souligné, en effet, on a des communautés qui défilent au fur et à mesure. Au départ, des communautés qui ne se comprennent pas. Il y a beaucoup de références justement par rapport à cette manifestation et à ces manifestations afro-américaines et qui finit par s'unir à la fin justement à travers cette succession d'imprévus, cette succession de catastrophes. Parce que pour le coup, on est vraiment... Il y a des catastrophes. Et on a ce défilement, pour le coup, qui finit parfois par nous perdre. Mais finalement, il y a quand même... derrière tout cet épuisant, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez lumineux. Et finalement, au départ, moi, je pensais que le film allait juste filmer le chaos et le désordre et qu'il ne savait pas où il allait. Mais finalement, il est encadré par deux séquences extrêmement belles où on a vu qu'il s'adresse à un ami tétraplégique et qui évoque finalement deux thématiques. Et je pense que ce sont vraiment les deux thématiques qui sont développées et par le réalisateur, à savoir, en effet, l'amour sous ses formes diverses, l'amour familial, l'amour sentimental, et l'immobilisme lié à la volonté. On a vraiment cette notion de volonté qui ce discours sur la volonté, donc une volonté sociale. On a justement ce communautarisme qui écrase ces individus. Malgré leur forte personnalité, on a quand même ce très beau personnage de femme qui a du mal à se déplacer, mais qui arrive toujours, elle le souligne toujours, à faire ce qu'elle veut par la force de sa volonté. Finalement, ces personnages qui sont présentés comme immobiles, comme entravés, ce sont finalement ceux qui montrent le plus de volonté et qui se déplacent le plus. Et je trouve ça assez beau, ce discours-là.
Ah oui, il y a quelque chose d'important qu'on a oublié de dire, c'est que le film se déroule sur la totalité d'une journée. On commence le matin, on termine le soir, donc on les suit pendant toute la journée, quasiment sans cut au final.
La séquence finale dans le commissariat, il y avait un côté, je ne comprenais plus ce qui se passait à l'écran et ça devenait très désagréable. J'étais limite en train de me dire que je pouvais ne plus regarder et juste écouter et me retourner quand ce serait terminé, qu'il ne se serait rien passé de plus. Parce que tu as du coup des gens qui sont en manifestation, donc il a envie de montrer le chaos, il a envie de montrer le côté c'est le bordel, et évidemment que du point de vue des personnages, tu en as quand même une qui est en fauteuil, donc qui du coup est plus bas que tout le monde, elle ne peut pas voir ce qui se passe. Et il y a deux personnes qui se mettent à se battre. En tout cas, dans l'espace, je comprenais ce qu'il voulait montrer, je ne comprenais pas comment il me le montrait. On parlait de bienveillance, moi j'ai beaucoup apprécié, alors au final c'est... Je pensais que ça allait être le sujet du film, mais finalement non, mais c'est une façon de... C'est un miroir de ce qu'il voulait dire aussi. C'est le regard bienveillant qu'il a sur le handicap. Puisque au fur et à mesure du film, avant que ça parte vraiment dans les personnages, quand on veut juste montrer le périple du « est-ce qu'il va réussir à faire sa tournée en emmenant les gens aussi au cimetière ?» Chaque fois que ça capote, chaque fois qu'il y a un souci, ce n'est jamais dû à une personne handicapée. C'est toujours dû à une personne entre guillemets « valide ». Donc c'est aussi une façon de nous dire que c'est les handicapés qui font avancer la chose.
Je rajouterai le fait qu'il n'y a pas une blague qui est basée sur les races des personnes. La culture un petit peu, mais ça reste très gentil. Vraiment très gentil, très bienveillant encore une fois, et pas une blague qui est basée sur le handicap. C'est vraiment une distance par rapport à ça. Ça nous touche particulièrement parce qu'on a l'habitude de voir des comédies françaises où on va venir te plomber dans les clichés, utiliser les clichés, faire un truc à la limite du racisme pour essayer de faire rire les gens, même voire carrément raciste, mais pour faire marrer les gens. Là, tous les ressorts comiques ne sont pas basés là-dessus. Heureusement, parce que ça aurait été tout un autre film si ça avait été le cas. Et ça ne met pas non plus de déséquilibre entre les personnes qui vont être invalides et les personnes qui vont être valides. Il y a vraiment un regard extrêmement doux sur toutes ces questions-là et une espèce de plongée sociétale sur comment fonctionnent les différents quartiers, comment fonctionnent les différentes choses. Et là où on pourrait croire qu'il va justement, il y a un moment dans le film, on pourrait croire qu'il va amorcer un point de vue sur le racisme et ce genre de choses, et justement le personnage de Victor désamorce ça en disant ça y est, tu me balances un truc en rapport avec le racisme, je m'y attendais, comme si on avait besoin de ça, et on n'a pas besoin de ça.
La ville est bloquée, justement un des problèmes de Vic, c'est qu'il est, il ne peut pas aller là où il veut parce que les rues sont fermées, voilà, il y a certains quartiers qui sont interdits. Et donc ça crée du désordre dans sa vie. En plus, il y a ce côté super gentil où en fait il accepte dans son van des gens qui ne devraient pas y être, donc ça ralentit. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Voilà, cette énergie, c'est à la fois son point fort et son point faible. On est pris dans une sorte de grand vide constamment, et en même temps ça dit beaucoup de choses sur les personnages. C'est ça qui fait avancer l'histoire. Il y a des histoires d'amour qui naissent de manière très belle. Enfin, le coup de foudre de ce type super costaud, donc ce neveu sorti de nulle part, qui voit une femme passer super enceinte jusqu'aux yeux et qui la dévore des yeux, enfin, on sait que c'est parti. Mais voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont faites, qui pourraient même ne pas avoir lieu. Chacun pourrait repartir de son côté, mais ça naît doucement comme ça. Donc voilà, c'est un film qui par moments est quand même très très dans l'énergie, très fatigant, très épuisant à cause de ça, et qui en même temps a des plages de douceur quasiment en même temps. C'est très fort.
Et juste le rapport à la liberté dont on n'a pas exactement complètement parlé en fait. C'est-à-dire que dans toutes ces personnes-là, les personnes les plus libres sont pas celles qu'on croit au final. Et tous les personnages sont à leur manière complètement entravés. C'est ce que tu viens de dire, Pascal, qui m'a fait réagir là-dessus. C'est même surtout Vic en fait est entravé. Vic, il est entravé parce qu'il a le truc, un élément qui bloque beaucoup, c'est des gens à gérer, des gens dont il faut s'occuper tous les jours, et dont il s'occupe jusqu'au bout, tout le temps, en aidant tout le monde, aidant. Jamais ce personnage ne s'occupe de lui-même. Et c'est un peu une espèce de cri du cœur qu'il n'arrive pas à faire, mais où lui, en fait, on peut supposer qu'il rêve que de ça, en fait, d'avoir cette liberté-là, peut-être qu'on s'occupe de lui aussi, alors que pendant tout le long, c'est lui qui doit gérer les catastrophes, et il le fait avec brio, comme s'il devait tout prendre sur ses épaules. C'est un film là-dessus, en fait, sur le rapport entre... C'est aussi un film là-dessus, sur le rapport entre la dépendance, l'indépendance, la liberté ou non.
Un film, donc, sur la liberté, un film sur le handicap, un film sur les relations, un film sur énormément de choses, peut-être un peu trop, qui ne nous laisse pas respirer, mais à la fois nous fait quand même passer de très très belles choses en tête. Réalisateur prometteur, qu'on a envie de suivre, dont on espère voir beaucoup de choses derrière. Merci Pascal, merci Inès.
Merci Thierry, merci tout le monde.
Ah oui, bah merci de nous avoir invités.
Merci Hera.
Merci Thierry.
Il y a de l'activité sur Critique Film actuellement, ou dont tu veux parler peut-être
Des articles publiés sur le site, sur des tests DVD, sur les sorties du moment.
Voilà. Pour le coup, on va essayer justement de retravailler beaucoup de choses sur le site pour le modeler maintenant, je pense, selon nos envies. Hein. Je pense que oui, là on est dans une phase extrêmement transitoire. Voilà.
Eh ben c'est parfait. Allez lire Critique Film, c'est chouette. Et Thomas, c'est à toi.
Ça parle très très fort ici.
Eh ouais.
C'est une fin de semaine un peu festive.
C'est une fin de semaine carrément festive.
Oui, alors évidemment je ne suis pas là sur le dernier film, vous l'avez entendu. Et on s'est retrouvés quand on a pu, donc dès qu'on a pu enregistrer cette fin d'épisode, nous l'avons fait. Alors, petit débrief sur la semaine cinéma, Thierry. Moi, pour l'instant, alors, c'est pas une semaine folle, mais c'est pas une mauvaise semaine non plus.
Non, c'est pas non plus désagréable. Moi, je retiens gros coup de cœur pour Crawl quand même, parce qu'on s'est bien marré, et que même si c'est peut-être moins qualitatif que d'autres trucs, je pense à Give Me Liberty qui, malgré tous les défauts que j'ai pu énoncer, je pense que c'est le film qui aura le plus plu. Mais celui dans lequel j'ai passé le meilleur moment, je pense que c'était Crawl, parce qu'il y avait le côté popcorn, le côté copain, on était exactement dans l'humeur qu'on voulait pour celui-là. C'était kiffant.
D'ailleurs, vous m'avez donné très envie de récupérer Give Me Liberty ce week-end.
Bah si, carrément. Au pire, si tu l'aimes pas, tu feras un contre-claque.
Mmh,
je trouve qu'on est en train de décliner beaucoup sur les concepts. On va se calmer un peu pour l'instant.
C'est la partie de l'épisode d'après. Alors moi aussi j'ai vu Give Me Liberty. Ouh là 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 là.
C'est un peu ça. Déjà je me suis abstenu de rajouter la petite portion que j'avais enregistrée à côté de Aquaman. Parce que je trouve que vous aviez été un peu dur. Mais bon, ça c'est l'histoire ancienne, c'est le passé. Clac, c'est de l'avant, c'est du chaud, c'est du chaud. D'ailleurs, l'épisode commence à refroidir, donc on va laisser reposer toute une semaine jusqu'au prochain épisode.
C'est vrai qu'on commence pas mal à parler pour rien là.
C'était Certalem à chaud. Merci Thierry.
Merci Thomas.
Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux films. En attendant, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode sur votre plateforme de podcast préférée ou votre agrégateur de podcast, comme on dit si bien. Pendant la semaine, on peut s'envoyer des petits messages, des petits commentaires, parler des films que vous avez entendus, que vous avez vus dans la semaine ou autre. Si vous êtes d'accord ou pas, bah dites-le nous sur les réseaux sociaux. Si vous avez des retours à nous faire, bah nous sommes friands, nous les attendons avec impatience sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Clac Podcast, C-L-A-A-C Podcast.
Et visiblement, c'est pas compliqué, le format ne change pas, on ne vous abandonne pas, il n'y aura pas une semaine sans claque.
On a le mois d'août, on continue un épisode par semaine, et peut-être que si vous êtes sage, il y aura des bonus en août d'été, parce que c'est l'été, que c'est les vacances, c'est la fête. On vous dit à très bientôt, bisous, bisous, bisous.
Bisous. Voici Galil Alligator, il arrive et sème la mort, et ventre les oisillons, torture les papillons.